Da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o întâlnire cu dirijorul francez Quentin Hindley, pe care poate că l-ați văzut la sfârșitul săptămânii trecute pe scena Ateneului Român în două concerte simfonice susținute de Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de care au fost pianistul Daniel Ciobanu și mezzosoprana Michelle Lozier. Programul concertelor a inclus una dintre cele mai îndrăgite lucrări ale pianisticii mondiale, concertul numărul 2 pentru pian și orchestră, opus 18 de Rachmaninov și opera în concert La Voix Humaine de Francis Poulenc, o lucrare de o intensitate dramatică remarcabilă. Quentin Hindley face parte din noua generație de dirijori francezi elogiați de presa internațională. Recent a înregistrat la studiourile Abbey Road din Londra cu London Symphony Orchestra. Dirijează frecvent în Franța, opera din Lille, orchestra de cameră din Paris, orchestra filarmonică din Strasbourg, orchestra regională Avignon-Provence, orchestra Bretaniei, opera din Nancy, dar și în străinătate, Orchestra de Cameră din Lausanne, London Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonicii din Zagreb și a fost și dirijor asociat al Orchestrei Jeune de la Méditerranée la Festival d'Aix-en-Provence timp de 8 stagiuni. În 2012 a fost numit dirijor rezident al Orchestrei Naționale din Lyon, iar în 2016 a devenit asistentul lui Sir Simon Rattle la prestigiosul Festival Aix-en-Provence.
Je suis d'abord intriguée par votre nom, votre patronyme. Alors déjà, est-ce que je dois le prononcer à l'anglaise? Comment?
Alors, en France, on dit Hindley. Il y a que mes professeurs des écoles qui savaient pas que c'était anglais. Mais c'est effectivement un patronyme anglais. Ça date de la Première Guerre mondiale, où mon arrière-grand-père en fait est venu combattre à Verdun. Et puis finalement, il est resté en France et il s'est marié à une Autrichienne. Donc c'est un mélange très européen. Et puis l'autre moitié de ma famille est bourguignonne. Donc en fait, moi je suis complètement français. J'ai appris l'anglais à l'école, mais mon patronyme se prononce bien Hindley.
Des musiciens dans la famille?
Alors j'avais un oncle qui a disparu trop tôt, qui était chef d'orchestre. Un oncle par alliance, que j'adorais. C'est lui qui m'a donné envie de jouer en orchestre de jeunes. Donc à l'âge de 15 ans, moi je suis altiste en fait de formation, et donc il m'a invité à jouer avec parmi d'autres jeunes en région centre, un orchestre qui s'appelle l'Orchestre des Jeunes du Centre, qui existe toujours aujourd'hui. Et puis un jour on lui faisait des blagues, en fait chaque année on préparait une petite pièce comme ça pour lui faire une surprise sans qu'il soit au courant. Et puis un jour je me suis dit, tiens, on avait envie de jouer le générique de Star Wars, donc bon, j'ai préparé ça en catimini, on lui a joué, et c'est là que le virus de la direction m'est arrivé, qu'il m'a transmis, et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir travailler avec des gens, des instrumentistes, à une équipe parmi laquelle je jouais, et donc j'ai eu envie de pouvoir progresser et éventuellement pouvoir prendre en charge d'abord une classe d'orchestre dans un conservatoire si mon avenir était d'être prof en conservatoire. Puis de fil en aiguille, les choses ont évolué, puis je me retrouve aujourd'hui ici à diriger l'orchestre avec un grand plaisir.
Oui, mais ça c'est un parcours en bref, mais moi je veux parcours un peu plus en détail, parce que vous me donnez l'impression que tout a été simple et que ça s'arrête là, mais non, mais je sais que ça a été beaucoup plus élaboré et que vous avez quand même eu un parcours impressionnant et avec des rencontres impressionnantes.
Oui, en fait, ça se fait pas en un an, évidemment. D'abord, je vous ai dit que l'alto était mon instrument de prédilection, mais c'était pas mon premier instrument. J'ai commencé à la flûte à bec tout petit. L'idée, c'était de faire de la clarinette. J'adorais la clarinette. Pierre et Leloup m'avaient motivé. Puis finalement, j'ai jamais touché à la clarinette. J'ai touché à l'alto. Un peu par défaut aussi, parce que je voulais faire du violon. Je ne connaissais pas l'alto. Et c'est mon cher oncle qui avait proposé à mes parents de faire de l'alto parce qu'il y avait plus de place en conservatoire et qu'on en avait besoin dans les orchestres. Et donc, de fil en aiguille, j'ai passé mon prix au Conservatoire de Paris, et puis j'ai commencé à travailler principalement dans le prestigieux orchestre de l'Opéra de Paris. J'ai fait beaucoup de productions avec eux. Mais entre-temps, la direction, grâce à mon oncle, m'avait passionné. Et à ce moment-là, j'ai appris un quatrième... Ah oui, parce que j'ai oublié un détail. J'ai fait de la batterie aussi au lycée. J'ai fait 4 ans de percussion, dont de la batterie. J'adorais pouvoir toucher à plusieurs styles de musique différents. Et puis, donc, le piano sur le tard, quatrième instrument. Mon but était de jouer une œuvre que j'adorais, c'était La Pavane pour une infante défunte de Ravel. Et donc, j'ai tout fait pour arriver à jouer ça en 2 ans. Mais je regrette terriblement de ne pas en avoir fait plus tôt, parce qu'aujourd'hui, c'est l'instrument qui me servirait le plus, notamment pour jouer des partitions, pour travailler avec, par exemple, un chanteur, pour réviser des choses dans une loge, pour mettre des choses en place avant, ou un pianiste, par exemple, avant un concerto. Donc voilà, c'est... Mais évidemment, mon parcours, ça a d'abord été l'entrée au Conservatoire de Paris en 2001 en alto, et puis finalement, j'y suis resté 11 ans, parce que j'ai terminé un cursus d'alto, et puis en fait, entre-temps, la direction m'avait intéressé. Donc je suis re-rentré en matière, dans les matières théoriques, pour pouvoir préparer l'entrée en direction d'orchestre, qui était extrêmement compliquée à l'époque. Je pense que c'est toujours ainsi, mais je n'en suis pas sûr. Il y avait un écrit qui faisait 12 heures, avec toutes les matières qu'on peut imaginer, les matières théoriques, et puis 2 épreuves avec orchestre. Donc j'avais vraiment une grande chance de pouvoir rentrer dans cette classe, où j'ai commencé à apprendre sérieusement la direction. Et c'était un cursus de 5 ans. Et puis ça nous a permis d'être d'abord mis en contact avec des orchestres professionnels qui nous aidaient en fait à découvrir les gestes techniques avec notre professeur. Et puis après cela, juste avant ce qu'on appelle le prix de direction, c'est-à-dire l'examen final du cursus de 5 ans, j'ai remporté le concours d'assistant à l'Orchestre National de Lyon. Alors là, c'était pour moi une grande libération, parce que je me suis retrouvé avec un orchestre sous l'aile de quelqu'un qui était Leonard Slatkin, le chef américain, avec au moins 2 ans devant moi de tranquillité pour pouvoir engranger le répertoire avant d'être lancé dans la vie active en tant que professionnel.
Oui, dans la vie active en tant que professionnel, là, on fait un peu le tour des grandes orchestres, non ?
Oui, alors évidemment, je crois qu'on est tous à en vouloir encore plus, mais je me rends compte de la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir l'occasion de pouvoir rencontrer des gens avec des cultures différentes, mais qui parlent évidemment tous le même langage. Parce que ce qui est assez extraordinaire, quel que soit le pays où on va, c'est que les codes de la direction d'orchestre et de la musique en général sont internationaux. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec différents orchestres, différents solistes aussi qui viennent des 4 coins du monde, j'irais même des 5. Là notamment la mezzo-soprano Michèle Lozier, que je ne connaissais que de réputation avant, qui est quelqu'un de fabuleux, qui est très intéressante quand on parle avec elle, et qui est une artiste magnifique. Donc tout ça, c'est une grande chance de pouvoir faire ce métier aujourd'hui dans un contexte international qu'on connaît. Voilà, il faut quand même, on est là aussi pour amener aux gens des émotions, du divertissement, des choses profondes. Donc c'est jouer avec ça et proposer et faire passer les messages des compositeurs envers le public, c'est tout à fait passionnant. C'est vraiment un grand plaisir.
Et je sais que vous avez eu l'occasion de rencontrer Pierre Boulez. Qui sont les gens qui vous ont aidé à franchir des étapes, ou qui vous ont inspiré peut-être, ou donné confiance?
Alors, Pierre Boulez, c'est assez étrange. C'est quelqu'un, la première fois qu'on l'a rencontré, je faisais partie de l'orchestre du conservatoire à Paris, et il venait diriger notamment le deuxième acte de Parsifal en concert, et la symphonie, la dixième de Mahler, où il y a un grand solo du pupitre d'alto. Et en fait, on était tous effrayés, on avait très peur, il était très intimidant. Et donc on avait le trac vraiment, et même moi j'étais au fond du pupitre d'alto et j'avais le trac. Et quelques semaines après, c'est Kurt Mazur qui est venu faire du Brahms, et cette fois-ci j'étais chef d'attaque, comme on dit, donc au premier pupitre d'alto. Et là j'avais pas peur du tout, il avait un contact très chaleureux. Et en fait, Pierre Boulez, j'ai appris plus tard que c'était plutôt de la timidité, mais on a fait une masterclass de direction avec lui. Il a été très. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté sur la précision d'un geste et le rapport entre un geste et les instrumentistes, en fait, parce que chaque instrumentiste a une attaque différente, et donc il nous montrait bien tout ça. Ensuite, dans mon parcours, j'ai vraiment quelqu'un qui m'a énormément aidé, qui m'a surtout énormément montré et ouvert des portes, c'est Paavo Järvi, le chef estonien qui était à l'époque directeur de l'Orchestre de Paris, qui vient toujours très régulièrement. C'est vraiment quelqu'un qui est très généreux. J'ai préparé plusieurs concours de direction Grâce à lui, il m'a aidé le soir après les répétitions à la Philharmonie de Paris qui se finissait à 22h30. J'avais la chance d'être jusqu'à minuit avec lui, il me donnait des conseils. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté aussi dans l'attitude devant l'orchestre, la décontraction, sans essayer de copier, parce que chacun a son corps et doit jouer avec son corps, mais en tout cas de transmettre les choses de manière fluide et détendue. Et puis il y a une autre personnalité que j'ai rencontrée au Festival d'Aix, où j'ai été son assistant sur un opéra de Jonathan Dove, mis en scène par Marie-Ève Signorol, qui s'appelle Le Monstre du Labyrinthe. C'est Simon Rattle. Simon Rattle, c'est évidemment quelqu'un que j'avais, j'admirais, qui était pour moi un maître absolu. Et alors le contact avec lui a été fabuleux, parce que j'avais notamment une quatrième symphonie de Mahler à diriger. Et alors les conseils qu'il donne, c'est au lieu de dire mets ton bras comme ça, fais ci, c'est juste une idée qui va nous faire vraiment comprendre tout un mouvement. Et je trouve ça absolument génial, la manière dont il a de pouvoir transmettre des choses qui nous illuminent le contenu d'un mouvement, d'un morceau.
Quand vous avez senti la première fois que vous êtes bon dans ce que vous faites ?
Ah, en fait, alors ça c'est personnel, mais j'ai finalement, rarement je me dis ça en fait. J'ai toujours l'impression de pas être assez bon et du coup je travaille toujours entre les répétitions et jusqu'au concert et même entre les concerts, parce que j'essaie toujours de trouver des choses différentes. Quand j'entends par exemple que quelque chose m'a pas plu, moi j'ai été élevé comme ça, mon professeur de direction m'a dit si il y a un problème c'est de votre faute, donc voilà, donc j'essaie toujours de voir quand il y a quelque chose qui n'était pas parfaitement ensemble, d'essayer de trouver un autre geste plus clair, plus musical, pour arranger à chaque fois des petites choses. Et heureusement, c'est jamais parfait, sinon on s'arrêterait, on dirait bon, ça voilà, l'excellence est atteinte. Donc voilà, non, moi je suis toujours en train de me remettre en question. Mais après, oui, quand il y a des choses qu'on a vraiment intégrées, la mémoire, et qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, il y a un sentiment très agréable en concert de sécurité, en fait. On sait que la phrase, elle va se dérouler comme si, là, il va se passer ça. Et ça, c'est très agréable parce qu'on est à la fois dans le contrôle, mais aussi un peu dans l'émotion qu'on essaie de faire partager. Et ça, c'est vraiment une sensation qui me motive pour continuer à faire ça, en fait.
Comment ça se passe quand vous arrivez dans un pays inconnu, parce que vous êtes pour la première fois en Roumanie, dans une salle que vous ne connaissez pas, et avec un orchestre que vous ne connaissez pas ?
Moi, j'adore découvrir des pays, des villes, des orchestres, et des gens, une culture. Et donc pour moi, c'est une grande chance, mais en plus, c'était un grand stress, surtout pour cette fois-ci, parce que j'ai été prévenu très tard, en fait, que j'allais faire ces concerts. Je remplace Monsieur Yurovski qui s'est absenté. Donc j'avais un grand stress d'arriver devant l'orchestre. Je viens de l'orchestre, je suis altiste au départ, et donc j'ai un très grand respect pour les musiciens d'orchestre. Et j'avais envie de donner vraiment le meilleur de moi-même sur ces pièces dès le départ. Et donc j'étais évidemment impressionné et toujours dans l'expectative de pas arriver à me faire comprendre tout de suite. Mais en fait, j'ai senti une grande connivence, et en tout cas une envie des musiciens de faire au mieux, de donner le mieux qu'il pouvait avec la situation. Et ça m'a vraiment aidé. Et à partir du troisième jour, je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Et là, avec le concert qui arrive, je suis très confiant. Et le soliste aussi, le pianiste, Daniel Chebanou, il est formidable. Il y a une vraie, en fait, de connivence entre nous et qu'on a créé tout de suite. Et donc, ça marche et j'en suis vraiment content.
Je l'ai vu ce matin, il avait l'air assez rigoureux, en fait.
La rigueur amène à la liberté, quelque part. Donc, il a raison de l'être. Il tient à ce qu'il veut musicalement. Et bon, tout ça étant un échange. Et moi, j'aime beaucoup écouter justement les solistes et pour ne pas faire toujours les mêmes choses. Et vraiment m'adapter aux propositions d'un soliste et toujours aller dans leur sens. Ça, j'adore. Et donc, on adapte. Et j'ai pris beaucoup de plaisir avec lui à échanger.
Thank you.
on va commencer avec Rachmaninov, c'est ça ?
Oui, le deuxième concerto de Rachmaninov. C'est une pièce qui date vraiment du tout début du XXe siècle, 1900 ou 1901. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, Rachmaninov, avant d'écrire ce concerto, était complètement en panne d'inspiration et que ça lui a valu de la dépression et des séances de psychanalyse. Voilà, donc c'est assez extraordinaire d'avoir composé un tel chef-d'œuvre qui est parmi les concertos les plus connus aujourd'hui, dont le thème principal d'ailleurs a été repris dans une chanson très célèbre qui s'appelle All by Myself, qui est chantée tout le temps, enfin que tout le monde connaît, qui passe à la radio en permanence, qui est magnifique d'ailleurs, c'est vraiment chouette. Et donc c'est un concerto qui est très ultra romantique et qui donne déjà les prémices de la musique romantique du cinéma hollywoodien en fait, avec des grands thèmes ultra expressifs. Ce deuxième mouvement qui est d'une simplicité harmonique qui nous chatoie en fait. C'est à la fois simple mais en même temps très très étudié et très bien écrit. L'instrumentation est magnifique, donc c'est vraiment une pièce que j'adore. Mais c'est la première fois que je la dirige réellement. Je l'avais étudiée et je l'avais jouée à l'alto d'ailleurs dans l'orchestre, mais vraiment l'accompagner, c'est vraiment un plaisir fabuleux. On a des émotions qu'on transmet et voilà, c'est vraiment une pièce que j'adore.
Humaine.
Alors la voix humaine, c'est vraiment complètement différent. La voix humaine, c'est 1958, c'est l'époque Jean Cocteau, d'ailleurs qui a écrit la pièce de théâtre, et Poulenc. Alors ils ont eu une période tous les deux, ils étaient amoureux, et puis il y a eu une rupture, tout ça, et cette pièce est arrivée assez tardivement après la rupture, donc ils ont retravaillé ensemble. Et ça, c'est vraiment, c'est une espèce, je ne sais pas comment le qualifier en fait, parce qu'on dit opéra, mais un opéra qui dure une quarantaine de minutes avec un seul personnage, enfin, il y en a trois, mais il n'y en a qu'un qui chante, je ne sais pas vraiment comment qualifier cette pièce. En tout cas, Poulenc a utilisé déjà toute sa palette d'outils qu'on reconnaît. L'harmonie, elle est vraiment signée. La manière de traiter aussi le texte et de le mettre en musique, on reconnaît immédiatement que c'est Poulenc, qu'on écoute l'extrait du dialogue des Carmélites, le concerto pour orgue et timbales et orchestre à cordes. C'est vraiment la signature de Poulenc. Et puis on a chez Poulenc l'héritage de nos Français, que sont Debussy, Ravel, mais pas que. Je pense à Jean Cras, qui est beaucoup moins connu, mais qui a fait des choses magnifiques aussi dans la même esthétique. Et on a cet héritage sonore et harmonique, et avec un orchestre assez large, mais avec des couleurs transparentes, en fait, qui sont vraiment à l'opposé de Rachmaninov, où on a vraiment une patte sonore. Là, ce sont vraiment plutôt des espèces d'espaces sonores transparents, où là, on sent une espèce de lumière et de scintillement dans certains passages. Et l'œuvre en fait parle d'une dame qui essaie de joindre en fait son amant au téléphone. Tout se passe au téléphone. On a d'ailleurs la sonnerie du téléphone qui est jouée par le xylophone. Et puis en fait cette dame et cet amant ont rompu et elle en est désespérée, elle en est dépressive et elle a même fait une première tentative de suicide. La mise en musique de cette pièce de théâtre nous transmet les émotions. Alors il y a vraiment des passages où on sent l'amour, en fait, la sensualité, la séduction. Et puis d'autres, on sent l'énervement. Elle n'arrive pas à le joindre au téléphone parce que ça coupe. Ce sont des anciennes avec des opérateurs, hein, à l'époque où il n'y avait pas les portables encore. Et elle essaye comme ça, donc elle est à la fois désespérée, encore amoureuse, énervée, et surtout en fait elle essaye de le récupérer en disant que tout est de sa faute. Et ça, ça fait réfléchir aujourd'hui parce que c'est un sujet d'actualité sur la place de la femme, le respect de la femme. Et là, on sent à l'époque quelqu'un qui prend tout sur elle en disant « tout est de ma faute ». Évidemment, c'est pas normal. Dans une relation, c'est toujours tort partagé. Donc c'est une pièce qui date des années, fin des années 50 et aujourd'hui qui amène un autre regard et avec sa fraîcheur musicale qui n'est pas datée en fait. C'est une musique qui a tout son sens aujourd'hui.
La salle vous plaît ?
Elle est magnifique, mais malheureusement, je suis de dos. Donc, elle est très généreuse pour l'acoustique. Il y a une toute petite chose avec l'orchestre, c'est que les bois sont sous un plafond qui est un peu descendu. Et donc, il faut vraiment ménager les cuivres et les bois pour que les bois soient toujours audibles dans l'ensemble de la salle. Mais la salle est vraiment, vraiment magnifique. L'acoustique, j'ai appris d'ailleurs que la troisième de Mahler avait été jouée la résurrection. Dans cette salle, ça devait être absolument incroyable avec les chœurs. J'aurais bien aimé être dans la salle à ce moment-là.
Comment vous faites, en fait, quand vous découvrez l'acoustique d'une salle ?
Alors, effectivement, la place du chef, on dit qu'elle est la plus mauvaise, en fait. Parce qu'on est à la fois, on est très proche de l'orchestre, on a le son qui est en direct, et on n'a pas dans la salle, on n'a pas les oreilles dans la salle pour voir comment le son, si le son est homogène ou pas. On en a déjà une bonne idée quand on est sur le pupitre, parce qu'avec l'habitude, s'il y a des choses qu'on n'entend pas du pupitre, on sait que ça ne va pas passer dans la salle. Donc on va faire en sorte de trouver un équilibre entre les différents pupitres, selon les endroits dans la partition, pour qu'on puisse vraiment distinguer ce que nous, on voudrait que le public distingue. Après, il y a aussi des gens qui, heureusement, connaissent la salle, on a échangé avec eux, et ils m'ont mis en garde sur certaines choses dont j'ai pu prendre conscience. Voilà, après, la salle, elle est quand même magnifique, donc c'est une bonne acoustique, il n'y a pas de problème avec ça. D'où l'intérêt dans certaines salles de concert, et notamment à l'Opéra, d'avoir un assistant qui est dans la salle. Ça, je l'ai beaucoup fait à l'Opéra de Paris dernièrement, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs productions où il y a vraiment un vrai travail à faire en fonction des équilibres avec la fosse d'orchestre, la grandeur de la salle, les voix des chanteurs, le positionnement des chanteurs sur la scène, s'ils sont plus devant ou plus derrière. Ça peut changer considérablement la perception du public. Donc tout ça est une grande aide pour évidemment le chef sur le podium.
Il y a quand même une évolution dans le métier que vous faites. On voit une nouvelle génération de chefs d'orchestre qui essayent de changer un peu la mentalité, qui essayent de changer la manière de travailler avec l'orchestre. Je pense que ça passe aussi par la musique et par l'affinité que vous avez avec certains compositeurs aussi.
Oui, alors déjà les rapports humains évidemment ont considérablement évolué ces 50 dernières années. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Vous pouvez écouter sur Internet. Il y a des enregistrements de répétition avec, je pense, à Toscanini, ce chef italien. Et à l'époque, l'orchestre n'était pas du tout, fonctionnait pas du tout de la même manière. Il y avait vraiment une sorte de despote au-dessus de l'orchestre qui imposait sa loi. Et vous pouvez entendre les Toscanini hurler sur les pauvres musiciens qui devaient plus savoir où se mettre et étaient terrorisés, tétanisés. Ça va aussi, c'est très en lien avec l'enseignement d'un instrument. Y a un film qui parle de ça qui s'appelle Whiplash, qui se passe aux États-Unis. C'est dans une école de jazz où un élève batteur prend des cours et le professeur vraiment le terrorise pour qu'il donne le meilleur de soi-même. Donc au bout du compte, il y arrive, mais il est le seul à y arriver. Et donc, on passe à côté de gens qui se seraient écrasés psychologiquement, mais qui auraient plein de choses, plein d'émotions à faire passer aussi. Donc ça, heureusement, c'est une époque qui est révolue. On est beaucoup plus dans l'échange et dans l'humain. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Quand j'étais dans l'orchestre moi-même, j'adorais voir le regard du chef. Je pense à l'opposé, c'était Karajan. Si vous regardez des vidéos de Karajan, il dirige les yeux fermés tout le temps. Donc c'est un autre contact aujourd'hui. Et puis moi j'aime rassurer les gens, parce que c'est, vous savez, le métier de musicien d'orchestre, c'est parfois très angoissant quand il y a des solos à jouer. Il y a une vraie pression par rapport à la situation. Et moi j'essaie toujours de mettre les gens en confiance pour enlever cette peur qui pourrait les gêner. Et voilà, donc moi je trouve que c'est un métier très humain que j'adore, et j'adore les relations humaines. Et effectivement, le choix des compositeurs, moi j'ai des compositeurs évidemment de prédilection, mais j'ai pas non plus une spécialisation, parce que il y a tellement de répertoires que j'adore que j'ai pas envie de me spécialiser dans un seul, parce que j'ai envie de diriger plein de choses. Mais effectivement, moi j'ai fait un gros travail sur l'œuvre de Ravel d'une manière générale. La musique française de cette période, je la trouve fabuleuse. Hein, l'expressionnisme, c'est vraiment un mouvement artistique général que j'adore, même en peinture. Après, il y a aussi l'art nouveau, voilà, qui est relié à une époque. Et puis, la musique contemporaine aussi m'intéresse, dans la mesure où on a la chance aujourd'hui, quand on joue une pièce de quelqu'un qui est vivant et qu'on a la chance de travailler avec lui. J'aurais bien aimé, à l'époque de Mozart, pouvoir travailler avec Mozart. Donc voilà, aujourd'hui on a la chance de travailler avec eux, et surtout ce sont des langages qui nous parlent, parce qu'à chaque fois que j'ai eu la situation d'une pièce nouvelle, eh bien je comprenais rapidement ce que l'auteur a voulu dire, parce que il vit dans la même société que moi, dans la même période, et donc ça fait appel à des références qu'évidemment on connaît. Donc c'est très particulier et très intéressant.
Est-ce que vous êtes quelqu'un de discipliné? Est-ce que vous êtes un travailleur acharné?
Alors, je suis, oui, on peut dire, mais je mets toujours du temps à m'y mettre. Voilà, je suis de ceux qui aiment bien travailler dans l'urgence. Je travaille beaucoup plus efficacement, je crois que j'ai toujours été comme ça, beaucoup plus efficacement dans l'urgence. Ce qui est un peu contradictoire avec ma manière d'être à l'aise quand j'ai eu le temps de travailler, en fait. Voilà. Quand une pièce, je passe énormément de temps dessus en amont, évidemment, j'arrive beaucoup plus en confiance. Mais j'aime bien aussi ce côté, d'être à la dernière minute, d'aller à l'essentiel. J'adore ça. Mais effectivement, j'aime bien quand les... Moi, j'ai des partitions qui sont très claires, très cadrées. Je pense que n'importe quel autre chef prendrait ma partition. Ça serait assez fluide. J'ai vu des partitions d'autres collègues, j'ai du mal à travailler avec elles, parce qu'il y a des traits de crayon partout, tout est surligné. Moi, je suis beaucoup plus épuré, mais avec des choses qui me permettent, quand je marque dans la partition, qui me permettent de mémoriser de manière très forte. D'écrire des choses, c'est aussi pour les mémoriser. Et puis, de toute façon, quand on travaille une partition, c'est même si on dirige pas par cœur, c'est pas la finalité. L'intérêt, c'est de, quand on répète, c'est de mémoriser des choses et d'avoir des réflexes, de savoir ce qui va arriver à l'avance, quel instrument va jouer, quelle va être l'harmonie. Et c'est ça, en fait. Il faut que la musique, elle découle, comme quand on chante Joyeux anniversaire, par exemple. On sait les couplets qui va se passer. Ben, il faut que la pièce qu'on dirige, il faut qu'elle soit intégrée comme si on chantait Joyeux anniversaire, en fait. Donc on sait ce qui va se passer. On sait les arrêts, les points d'arrêt, les choses, les instruments qui vont avoir besoin d'un regard, le soliste. C'est ça qu'il faut très vite apprendre.
Et la surprise?
La surprise, eh bien, le jour du concert. Parce qu'on ne fait jamais exactement la même chose. C'est d'où l'intérêt aussi. Il y a toujours des gens qui se demandent à quoi sert le chef. Il y a un projet, malheureusement, je crois qu'il est en train de péricliter, en France, avec un orchestre qui s'appelle Les Dissonances, dirigé par David Grimal. C'est assez fabuleux. J'ai pu les écouter quelle était la pièce? Peut-être une symphonie de Mahler, je crois. Donc c'est incroyable, parce qu'ils arrivent à monter des programmes sans chef. Donc c'est très intéressant de voir le résultat et comment ça fonctionne. Mais en fait, il y a toujours un chef quelque part. En fait, j'ai remarqué déjà pendant les répétitions, forcément, il y a bien quelqu'un qui organise le travail. Et heureusement, sinon ça marcherait pas. Et puis, en fait, j'ai pu remarquer que selon les endroits où on est dans la pièce, je pense à par exemple Daphnis et Chloé de Ravel, où à un moment, il y a tout un tableau où le pupitre des hautbois a la prédominance et a le thème. Ils sont trois à jouer et les autres les accompagnent. Et bien, en fait, j'ai remarqué que la casquette de chef se passe d'un pupitre à l'autre. Dans ce moment-là, c'est le hautbois solo qui on dirait qu'il lead en anglais, qui conduit en fait les autres, et les autres sont à l'écoute. Quand il y a un chef, en fait, on a une vision qui est complètement globale de la partition, et du coup, on a un chemin qu'on propose, mais qui est un chemin avec un début, un milieu et une fin, et on sait où on va. Et donc, il y a quelque chose d'homogène. Et en plus, quand on fait par exemple 6 concerts avec le même programme, eh bien, on ne fait jamais la même chose. On est toujours en train de varier des choses avec l'acoustique de la salle, le public qu'on ressent d'une manière différente. Il y a toujours des choses un peu différentes, alors qu'un orchestre qui n'aurait pas de chef, il y a plusieurs choses qui sont préparées et qui restent un peu figées. Il y a des points de rendez-vous, en tout cas, qui restent figés. Et c'est là où nous, on amène une certaine liberté, en fait, c'est de jamais faire pareil.
L-am ascultat pe dirijorul francez Quentin Hindley. Pentru mai multe detalii despre programul concertelor Filarmonicii George Enescu, vă invit să consultați site-ul filarmonicaenescu.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!